Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast. Et bienvenue sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
Dans quelques instants, nous aurons l'immense plaisir de recevoir l'artiste franco-marocaine Sonia Hamza. Elle est photographe, véritable artiste dans l'âme. Elle présente sa nouvelle exposition intitulée Pose Longue Autumn Time, qui est ouverte ses portes le 17 octobre jusqu'au 15 novembre au cœur de la ville de Tétouan. Elle nous parlera de cette série photographique en pleine de nostalgie, de mélancolie et d'absence retrouvée. Sinon, nous recevrons également la chanteuse marocaine Rita Nata, qui fait de plus en plus parler d'elle dans le monde de la musique sur notre continent, mais également sur les plateformes de streaming. Elle nous revient avec un superbe morceau, Wahia, dont on parlera plus en détail de son inspiration. Un cocktail d'électro avec la musique africaine marocaine, un son pur jus dont on parlera dans quelques minutes. Sinon, on parlera également cinéma avec notre coup de cœur qui nous vient de Madagascar, Disco Africa. On en parlera donc dans quelques instants. C'est un film signé Luc Razanajaona et qui place Madagascar sur la carte mondiale du cinéma avec une première au sein de la Berlinale. Ça sera dans quelques instants. Mais avant toute chose, et comme promis, place à l'artiste franco-marocaine Sonia Hamza, qui a ouvert les portes de sa nouvelle exposition au cœur de la ville de Tétouan, baptisée Pose Longue Autumn Time. Ça se refermera donc le 15 novembre. Et Sonia Hamza plonge son spectateur au cœur de la ville de Tétouan, de son histoire, cherchant à capturer les empreintes du temps, mais également de l'absence, de la nostalgie, des souvenirs, des réminiscences pures qu'elle a su capturer avec une infinie poésie. Il faut dire que Sonia Hamza a baigné dans la photographie depuis qu'elle est toute petite, notamment grâce à son frère. Et depuis, c'est devenu un véritable chemin de vie.
Et moi, j'ai baigné dans ces appareils photo depuis toute jeune. Et finalement, je me suis lancée parce que je me suis dit, bon, on peut être deux à être photographe et il n'y a pas de contre-indication. Et j'ai reçu beaucoup de soutien de la part de mon frère et on avait cette complicité grâce à ce médium que j'adore. La photographie est un ciment pour moi.
Un ciment, mais aussi une sorte peut-être d'introspection de ce lien invisible qu'on crée avec les lieux, mais aussi avec les personnes que l'on photographie. Comment tu définirais, toi, donc, la photo, tout simplement, selon ta sensibilité à toi d'artiste ?
Je reprendrai l'étymologie du mot photographie, photo et graphie, donc écrire avec la lumière. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est vraiment cette série-là, parce que j'ai joué avec ce que me donnait le temps, la lumière, et voilà, c'est ma manière d'interpréter ce mot et de jouer entre les frontières, parce que finalement, la photographie, elle n'est pas très loin de la peinture. Donc, on peut s'y retrouver aussi si on préfère la peinture. Donc, j'aime que les frontières soient poreuses et qu'on ne sache plus très bien quel est le médium et tout ça, du moment qu'on reçoit le message.
Donc, être un peu sur le seuil constamment.
Ah, je suis franco-marocaine, donc je pense que c'est un peu de ça.
C'est vrai qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et voilà, une très belle exposition également qui a ouvert ses portes le 17 octobre et qui les refermera donc le 15 novembre en plein cœur de la ville de Tétouan. Et avec ce titre très poétique qui intrigue énormément, donc « Pose longue, autumn time ». Alors, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des explications par rapport au choix de ce titre.
Alors, c'est venu assez naturellement parce qu'en fait, le principe de cette série, c'est la pose longue, mais la pose, P-O-S-E. Donc, c'est le principe technique. Mais moi, en fait, ça, si j'ai utilisé la pose longue en photographie, c'est pour absorber en 3 secondes tout ce que j'ai manqué pendant une certaine période, la période de la Covid, où je n'ai pas pu aller au Maroc. Donc, pendant ces 3 secondes, ça équivaut aux 3 années où j'étais absente. Et donc, c'est la pose longue. Voilà, la pose P-A-U-S-E.
Et pourquoi
et autumn
choix...
time parce que
oui.
Pardon.
Allez-y,
et
vous en
autumn
prie.
Time parce que autumn time parce que il y a eu une version summer time, la première que j'ai effectuée, et voilà, c'est pour la distinguer.
Et c'est vrai que voilà, on voit en même temps quelques photos qui sont exposées. C'est la ville de Tétouan qui est notamment photographiée avec cet effet un peu de vertige où on a du mal un peu à émerger. On a l'impression d'être dans un peu dans le rêve, dans voilà quelque chose de très particulier qui se dégage, qui émane des photos. Et comment vous avez eu l'envie de monter cette exposition, notamment parce que vous n'aviez pas pu rentrer au Maroc pendant un certain temps, mais également comment s'est préparée cette exposition, comment vous est venue l'idée de photographier des villes et pas autre chose, par exemple la ville.
J'ai toujours été sensible aux villes, hein, parce que j'ai pas mal voyagé, j'ai eu cette chance, et je trouve que la ville est ce qui parle le mieux des gens. Finalement, on voit facilement comment les gens se vivent leur environnement à travers les villes. Et donc là, je me suis absentée pendant plusieurs années et naturellement, je suis revenue à Tétouan, qui est la ville de mes vacances et où je rejoins ma famille. Et j'ai voulu casser, après ces 3 ans longues et difficiles, ma technique de photographie. Et donc, j'ai utilisé cette longue pause pour exprimer ce manque que j'ai eu et ce retour aux sources.
En tout cas, c'est vrai qu'en voyant les photos, ça donne envie de voir toute l'exposition, l'impression de raconter une histoire. Et vous, en tant qu'artiste, au-delà donc de cette exposition, est-ce que vous préparez quelque chose en ce moment? Est-ce qu'il y a de nouveaux projets avec peut-être des thématiques différentes?
Oui, en fait, j'ai un sujet de prédilection depuis plusieurs années sur le Japon. Et j'ai trouvé l'année dernière, pendant ma résidence à Tétouan, un artiste céramiste avec qui j'ai discuté de ce projet que j'avais mis de côté parce que je ne trouvais personne pour le réaliser avec moi. Et on s'est tout de suite bien entendu. Et en fait, c'est un travail de zélie. Donc, je suis contente de le faire ici au Maroc et à côté de Tétouan. Donc, c'est mon projet actuel. Là, c'est voir comment ça avait avancé. Donc, c'est en partance.
Et pourquoi, telle question, vous avez répondu tout à l'heure, mais est-ce que ce n'est pas difficile de photographier des lieux vides comme ça, les ruelles, des souks, des maisons? Comment capter justement l'âme? Parce que là, quand on voit vos photos, c'est vrai qu'elles nous parlent, il y a quelque chose, même s'il y a un vide. Et comment, en tant que photographe, vous me direz, c'est ça aussi la magie qui fait une signature d'un photographe?
Oui, c'est très difficile, parce qu'effectivement, cette période que je décris, pendant la pandémie, il n'y avait personne dans les rues. Donc, il a fallu que je retrouve une manière de faire disparaître ces personnes, ou du moins de les suggérer. Donc, c'est pour ça que vous les voyez assez fantomatiques et tout ça. Et c'est l'effet longue pause, donc les 3 secondes qui me permettent effectivement de n'avoir que des ombres et des personnages suggéré. C'est la technique photo qui me permet de vider les villes, les ruelles, pardon.
En tout cas, c'est vrai que ça donne envie. Je rappelle que vous êtes au cœur de la ville de Tétouan jusqu'au 15 novembre pour cette très belle exposition qui a quelque chose de très poétique et de, je sais pas, une âme, quelque chose vraiment qui nous prend aux tripes. Merci d'avoir été avec nous, Sonia Hamza. Merci infiniment.
Merci beaucoup à vous.
Et après avoir parlé photographie avec Sonia Hamza, nous parlons tout de suite cinéma avec Disco Africa, signé Luc Razana Jaona, et qui place Madagascar sur la scène du cinéma mondial. Madagascar, nous sommes face à Kwame, 20 ans, qui tente de gagner sa vie dans les mines clandestines de Saphir, et suite à un événement inattendu, il doit tout simplement revenir dans sa ville natale où il retrouve sa mère, ses anciens amis, mais également eh bien, la corruption qui gangrène son pays. Ballotté par plusieurs émotions, sentiments, il va devoir choisir finalement entre argent facile et fraternité. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Disco Africa, une histoire malgache. Creusant les profondeurs longtemps, j'ai cherché mon chemin. Je sais maintenant que ce n'est pas des pierres que tu tires ta valeur, mais des âmes courageuses qui t'ont donné le sang. Madagascar, ô mon pays, je tâcherai d'être digne de toi. Fin de citation. Avec Disco Africa, une histoire malgache projetée dans la section Génération 14+, de la 74e Berlinale, Luc Razana Jaona offre à Madagascar sa première participation à un grand festival international. Ici, on parle de racines, on parle de ce lien authentique qui offre au film eh bien, un charme exceptionnel. Et il faut dire que sous la surface de sa simplicité, doublée de ce portrait acéré de la société malgache, on retrouve eh bien, également un portrait d'une situation politico-économique délicate. Tamisant eh bien, la terre de Madagascar à la recherche de Saphir, le jeune Kwame, joué par Parista Sombo, et son ami rival Dominique Toditsara, rêve d'un autre avenir, par exemple partir en France, faire le tour du monde ou bien rentrer à Tamatavé, acheter un grand terrain et construire une maison. Mais il faut dire que l'irruption de la gendarmerie brise net leurs espoirs, puisque la terre a été achetée par des étrangers. Rival perdra la vie dans l'affaire, une mort violente qui culpabilise Kwame et le renvoie à la disparition de son propre père lors d'une manifestation alors qu'il n'était qu'enfant. C'est donc avec un cercueil que Kwame rentre chez lui à 8 de bus, traversant une île embrasée par une querelle post-électorale. Retrouvant le foyer maternel, mais également le photographe Baba qui a partagé autrefois avec son père l'aventure du groupe de musique Tout Puissant Africa Voice, Kwame cherche du travail et commence à investiguer le passé paternel. Une enquête qui va très vite résonner dans le présent avec les retrouvailles d'un copain d'enfance devenu trafiquant de bois de rose. Disco Africa, une histoire malgache, c'est d'abord l'histoire de plusieurs portraits, de l'histoire avec un petit H et de l'histoire avec un grand H, celle des Malgaches et de Madagascar. Le réalisateur a tenté de capturer l'âme de Madagascar, ses rites ancestraux, et de retisser peut-être des liens entre les époques pour honorer eh bien, la mémoire de ceux qui sont morts pour la liberté, mais également des esprits, ceux de la résistance. Et après avoir parlé cinéma dans l'Afrique en culture, tout de suite je vous propose de parler musique avec notre coup de cœur. Elle s'appelle Rita Nata, c'est une jeune femme à suivre de très très près. Elle se fait de plus en plus présente sur la scène musicale africaine, également sur les plateformes de streaming. Elle, c'est l'afrobeat qui l'habite, un cocktail de jazz, de highlife, mais également de funk. Il faut dire qu'elle a plusieurs inspirations de Amy Winehouse en passant par Robert Plant, James Joplin, Bob Marley ou encore la musique marocaine traditionnelle. Eh bien, Rita Nata switch avec tous ses genres. Elle passe le plus gros de son temps eh bien, à peaufiner sa musique, son univers musical. Elle donne libre à son imagination avec cette musique qui nous emporte, qui nous colle à la peau totalement dermique avec des racines profondément africaines. On l'écoute tout de suite.
C'est un afro, exactement, mais c'est, moi je l'appelle, c'est marocain en fait. Pour les sons, genre l'instrumental, il est très inspiré de la musique marocaine.
D'accord.
Samir est beaucoup inspiré de la musique amazigh.
Mm-hmm.
Vraiment, on dirait qu'il est amazigh, mais on l'est tous. Et il est très inspiré de la musique amazigh. Et moi, parce que je suis née à Fès et j'ai entendu Essaoua toute ma vie, je suis très inspirée des beats de Essaoua, genre des sons, des drums de Essaoua et tout ça. Donc c'est un mélange de ça, de amazigh et Essaoua. Mais j'écris en anglais. J'ai entendu Amy Winehouse et tout ça. J'écris en anglais. J'aurais aimé écrire en arabe, mais c'est pas encore mon point fort. J'aimerais bien, mais je me sens moi-même quand j'écris en anglais. Je sais pas pourquoi. Même si j'ai jamais fait genre. J'ai pas étudié à l'école américaine ou tout ça, j'ai appris l'anglais moi-même. Je me sens mieux en anglais. C'est un mélange de tout ça, de la musique marocaine, de la soul aussi, R&B, avec l'écriture en anglais. Des fois, je lance des mots en arabe à la fin de certaines chansons, comme sur Not the Same. J'avais écrit Allahumma ajjal Ali à la fin. Mm-hmm. Et avec Talking About Shit, j'avais écrit Allah Daim. C'est un truc qu'on dit.
Ça, c'est Gnawa.
Ouais, Gnawa et Essaoua aussi. Donc, c'est des trucs qui m'ont inspiré quand j'étais petite et que je les utilise après, maintenant, avec ma musique.
Merci beaucoup, Rita Natah, d'avoir été avec nous. D'ailleurs, juste pour le plaisir, on va écouter ton dernier son, Wahia, une petite pépite sonore, et on se retrouve juste après. Wahia, Rita Natah qui nous régale comme à son habitude. Merci d'être avec nous sur Média pour l'Afrique en culture qui se clôture dans un instant. Mais avant toute chose, eh bien, impossible de ne pas parler littérature avec ce livre qui fait grand bruit, Le Testament de Charles, le premier roman du journaliste Christian Eboulé qui suit l'histoire d'un des rares officiers africains dans les troupes coloniales françaises, le capitaine Charles Tcho Réré, originaire du Gabon et qui a servi sur de nombreux territoires de l'Empire colonial français avant d'être abattu par les Allemands en 40. Journaliste et romancier Christian Eboulé s'est emparé de cette figure historique dans son livre Le Testament de Charles, où il nous parle, eh bien, sous forme de fiction, du destin hors du commun de ce soldat africain tombé pour la France. Il dira, je cite, très vite, j'ai compris en plongeant dans les archives du capitaine Tcho Réré que la petite histoire et la grande histoire étaient entremêlés, s'inspirer de la vie du capitaine pour écrire mon roman permet précisément d'aborder toutes les problématiques de l'époque à travers la vie singulière de mon personnage. Vu comme un miroir tendu envers lui-même, il y avait pour Christian Eboulé une sorte de résonance entre le destin, la trajectoire du capitaine Charles Cho Rere et la sienne, en ce qui concerne notamment le racisme et la gravité de la domination coloniale et les séquelles irrémédiables qu'elle laisse. Un sujet plus d'actualité que jamais. Donc le testament de Charles le Dernier, roman de Christian Éboulé. On arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Tout de suite, Maymoun, un morceau signé Tyre Lil, un superbe mélange entre la musique guénaoui épurée à l'extrême que l'on aime tout particulièrement. Question de clôturer en beauté. Et je vous rappelle que l'Afrique en culture, c'est toujours en avant-première sur Média Podcast.
مرحبا بيك يا ميمو بابيك يا ميمو القناوي وعيني عادة حالي وراني مغبون حالي وراني مغبون يا داق الحال وما بيا خلق الكون
يا خلق
القدرة الإلهية بالنغمة راني مسكون يا بالنغمة راني مسكون ونبض دفوف ربانية وسلبتيني أسمر اللون هذا حالي وراني مغبون خالق اللون معنا مكنون خالق اللون معنا مكنون واجو منازل قمريا ليل ونهار يا مفتون يا ليل ونهار يا مفتون والنفاس خطوات يا سلبتيني وفين تكون هذا حالي وراني مغبون فين شداد مع فرعون فين حبابي وماريا سيف الموت كلها مطعون سيف الموت كلها مطعون
سيف الموت كلها مطعون
يا خلا وفي قلبي كيان